Eh bien d'abord bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je vais vous parler aujourd'hui puisque je suis ravie d'être parmi vous. Un grand merci aux organisateurs pour l'organisation de ces journées, pour leur invitation à participer. Je vais plonger directement dans le vif du sujet. Attention aux âmes sensibles. Les scènes théâtrales contemporaines s'apparentent de plus en plus à des livres ouverts, des espaces scripturaux, qu'il s'agit d'écrire pour l'artiste, de lire pour le spectateur, voire de décrire dans le sens de description pour les chercheurs. Une telle considération, reconsidération de la scène semble encore plus affirmée chez le metteur en scène, plasticien et scénographe italien, fondateur de la Societas Raffaello Sanzio, Romeo Castellucci, pour qui, je cite, « Le livre a toujours été considéré comme une chose, un parallépipède de papier. C'est la première réalité du livre. Hamlet devient un nom et un corps sur la scène, il n'est pas un livre. » Fin de citation. Cette approche du livre comme dépassement du papier le conduit à formuler une autre fonction du livre. Il dira « Le livre est un cadavre, c'est une lettre morte toujours et quoi qu'on fasse. » Fin de citation. Antonin Artaud, dont Castellucci se veut l'héritier, partageait d'ailleurs cette considération, je cite cette fois-ci donc Antonin Artaud. Il faut bien admettre, même au point de vue de l'Occident, que la parole s'est ossifiée, que les mots, que tous les mots sont gelés, sont engossés dans leur signification, dans une terminologie schématique et restreinte. Fin de citation. Il s'agit par-delà le livre comme support de se saisir d'une langue propice à révéler en particulier des corps et ce dont ils sont porteurs, à savoir ici les mots M-A-U-X et non M-O-T-S et les stigmates. Mettre en scène s'apparente ainsi à un processus de dévoilement des états des corps qui n'occulte ni la blessure, ni la maladie, la souffrance, la fatigue, l'usure, voire la mort. Cette approche plastique et anthropologique inaugure une pensée et écriture des corps portant des stigmates et des cicatrices. Analysant la démarche de Romeo Castellucci, Bruno Takels, dont nous avons rapidement parlé tout à l'heure, lui attribue le titre d'écrivain de plateau. Puisque pour Takels, l'artiste invente les nouvelles langues de la scène et occupe d'emblée la fonction d'écrivain, un écrivain d'un genre particulier dont le médium et la matière proviennent essentiellement du plateau. Dès lors, le texte provient de la scène et non du livre. La scène conçue par Castellucci se révèle comme le lieu d'une écriture originale, mais aussi le lieu d'adaptation des œuvres du répertoire littéraire, musical ou alors dramatique, comme celle par exemple de Dante, Céline, Eschyle ou encore Shakespeare, pour ne citer que cela. Dépouillant le texte dramatique, Romeo Castellucci le substitue par des enregistrements ou des projections, des cris ou des silences, des images et ou des corps. Il s'agit, comme le disait Artaud, je cite, « de substituer au langage articulé un langage différent de nature » dont les possibilités expressives équivaudront au langage des mots, mais dont la source sera prise à un point encore plus enfoui et plus reculé de la pensée. » Fin de citation. La scène qu'il met en œuvre se veut débarrasser des oripeaux de la langue et le texte est ainsi pétri, malaxé, pressé, remué, sculpté. L'écriture scénique consiste alors à sonder le corps même du texte en le déstructurant pour mieux le réarchitecturer ensuite, et ainsi d'en révéler la part insoupçonnée, c'est-à-dire précisément le verbe, mais un verbe au sens joannique. Au commencement était le verbe et le verbe s'est fait chair. Prolongeant ces paroles du prologue de l'Évangile selon Jean, Chiara Guidi, qui est donc cofondatrice de la Societas Raffaello Sanzio, énonce son credo. Je cite « Si au commencement était le commencement du verbe était la chair, tout comme elle en sera sa finalité. » La chair que nous allons interroger ici dans cette contribution révèle le surgissement d'un cadavre tapi dans le livre de mémoire sur une scène envisagée comme le lieu d'exaltation des corps stigmatisés. Nous nous intéresserons donc aux linéaments inscrits dans le livre comme dessin des corps et prenant appui sur les créations de l'artiste, deux des créations, Jules César qui date de 1997 et qui a été reprise en 2014 et Oresti datant de 1995 et reprise en 2015. Donc en 1997, Romeo Castellucci propose une adaptation de Jules César. Cette adaptation, d'après la tragédie de William Shakespeare, sera d'ailleurs la première création de l'artiste présentée dans le cadre du Festival d'Avignon en 1998. Castellucci n'extrait que quelques passages de l'œuvre originelle, qu'il va remodeler sous la forme de deux actes uniquement. Le premier rassemblant les trois premiers actes de la pièce originale, le second explorant les incertitudes, les réticences et les peurs des personnages confrontés à une mort imminente. Des 10 personnages qui constituent le texte original, seuls les 4 principaux seront conservés. Jules César, Brutus, Antoine, Cicéron et Cassius. Cet effacement des personnages est d'ailleurs accentué par une présentation quelque peu anecdotique des scènes de la conspiration et de la mort de Jules César. Sur un plan de l'exposition dramatique, la construction de l'œuvre se fait sous la forme de tableaux, rappelant ceux dans l'œuvre de William Shakespeare, la scène d'ouverture, la trahison de Brutus, la mort de César et l'oraison funèbre de Marc-Antoine. Mais à la différence de l'auteur anglais, cette exposition est réalisée de manière hâtive et l'accent est véritablement mis sur les corps difformes et souffrants. Ainsi, Giancarlo Paludi, donc homme obèse, incarnera Cicéron. L'acteur Maurizio Cara, un vieillard nu, interprétera le rôle de César. Brutus, et Cassius, dans le deuxième acte, interprété par Federica Santoro et Christiana Bertini, deux femmes anorexiques. Et le célèbre discours d'Antoine sera prononcé par Damasio Mazzini, qui est un acteur laryngotomisé. Le spectacle s'ouvre par l'entrée du comédien Tony Simone, qui introduit dans ses fosses nasales un endoscope, dont les images sont directement retransmises sur un écran circulaire. Je vois déjà des têtes, c'est magnifique. L'intrusion de l'endoscope opère comme une traversée des membranes, semblable au lever du rideau de chair, tout en opérant un voyage à l'intérieur de son corps. Cet appareil de phoniatrie permet de voir le voyage à reculons de la voix jusqu'au seuil des cordes vocales, et donc de visualiser non plus le corps, mais carrément la chair de la parole. Pour Castellucci, une telle projection permet la vision de la gorge d'où sort la voix. Le cadre de la scène devient une bouche et laisse voir au fond les cordes vocales, nous permettant d'arriver à une littéralité qui devient vertige. L'image vue réalise en fait la parfaite correspondance entre la parole et sa vision, c'est-à-dire la vision de son origine charnelle. Par ce geste, le comédien donne corps au discours de Marullus, discours qui ouvre la pièce originale de Shakespeare. Ainsi, le corps de l'artiste devient la scène de l'accouchement de l'impalpable, de l'origine charnelle et sexuelle du souffle, de la voix et de la parole, et celle de la naissance du langage. Il fait aussi de la voix la matière et le lieu de l'incarnation. Il ne s'agit plus donc seulement de procéder à une endoscopie, mais de faire de cette action l'acte par lequel ce qui n'était pas cher devient cher, l'acte par lequel la voix, invisible pour le regardeur bien qu'audible, prend corps véritablement. Porteur de voix, le comédien interprète à la fois Flavius, Marullus et le Savace en changeant de timbre de voix. Un tel processus repose sur l'usage particulier des cordes vocales, du larynx, du pharynx et de l'épiglotte, qui deviennent véritablement des corps des personnages, puisque différemment mobilisés en fonction de la hauteur et du timbre des sons émis. L'audible devient visible et les personnages prennent corps dans le corps même du comédien. Autrement dit, l'acteur ouvre son corps, en dévoile l'intériorité pour la mettre au service de ceux des personnages qu'ils interprètent. Il ne s'agit plus simplement d'interpréter un texte, mais de l'incarner physiquement. Une telle approche rejoint cette définition de l'incarnation qui est proposée par la philosophe Marie-Josée Mondzin, je cite: incarner, c'est donner chair et non pas donner corps. C'est opérer en l'absence des choses. L'image donne chair, c'est-à-dire carnation et visibilité, à une absence dans un écart infranchissable avec ce qui est désigné. L'usage de l'endoscope s'inscrit donc d'une part dans le refus de Castellucci de renouer avec la rhétorique traditionnelle et la logorée verbale du comédien, et d'autre part dans son désir de revenir à la source de la langue et de retrouver le souvenir d'un langage dont le théâtre a perdu le secret. Cette démarche est à l'évidence en rapport avec la démarche artaudienne, puisque, je cite de nouveau Artaud, La question qui se pose est de permettre au théâtre de retrouver son vrai langage. Langage spatial, langage de gestes, d'attitude, d'expression et de mimique, langage de cris et d'onomatopées, langage sonore où tous les éléments objectifs aboutiront à des signes, soit visuels, soit sonores, mais qui auront autant d'importance intellectuelle et de signification que les mots. Les mots n'étant plus employés que dans les parties arrêtées et discursives de la vie, comme une clarté plus précise et objective apparaissant ici à la pointe d'une idée. Fin de citation. Pour retrouver donc cette jouissance de la parole, Castellucci opte aussi pour un comédien ayant subi une laryngectomie. Voilà. De sa voix métallique, presque silencieuse, très très basse, l'acteur interprétant Antoine prononce un discours qui est quasi inaudible pour les spectateurs. Grâce à la voix de cet acteur presque réduite au silence, qui n'est plus capable que d'émettre quelques borborygmes, on comprend le combat titanesque que mène ici la voix contre la parole. La voix, voyant privée de sa jugulaire de chair, se transforme en pulsion œsophagienne qui deviennent pure vibration de l'émotion. L'articulation des significations se brouille et s'évanouit, il n'en reste que la modulation vocale à demi perdue et d'un coup absorbée par les bruits du corps. Dans cette mise en scène, c'est la voix prisonnière et réprimée qu'on propose de faire entendre aux spectateurs, non le discours corrompu d'Antoine, la rhétorique de la parole cède sa place à la rhétorique du corps, ce dernier devenant le vecteur d'une parole authentique. Renaud Castellucci poursuit ici sa démarche en questionnant la statuaire, le pouvoir et la parole, et plus spécifiquement la rhétorique comme lieu de pouvoir. Dans la dernière version de Jules César, à l'acte 2, Roméo Castellucci dépose volontairement sur le corps de la comédienne interprétant Cassius une pierre tombale sur laquelle est inscrite « Ceci n'est pas un acteur ». Or, choisir une pierre tombale plutôt qu'un panneau ou autre chose n'est pas anodin pour Castellucci puisque, selon lui, le texte dramatique a horreur des références proches de la chronique, s'inspirant plutôt des pierres tombales dont les inscriptions sont gravées éternellement sur la pierre. Fin de citation. L'inscription ici sur la pierre fait bien sûr référence, vous l'aurez compris, au célèbre tableau de Magritte. Merci. La trahison des images, ceci n'est pas une pipe. En écrivant « Ceci n'est pas un acteur », précise Roméo Castellucci, je n'ai pas voulu représenter tout nu un corps dans son évidente douleur, j'ai voulu souligner le fait que c'était un acteur, un corps anorexique dans ce cas, l'est symboliquement deux fois. Le théâtre ne s'édulue pas parce que c'est la représentation qui cède face à elle-même. Le statut du corps dépasse donc ici celui de la mimésis, puisque le texte s'exprime à travers lui. Dans ce théâtre néoclassique, comme le nomme lui-même Roméo Castellucci, le texte devient action et les corps viennent rendre l'idée sensible. Ils posent des questions que les mots ne sauraient faire surgir. Par ailleurs, le corps de Cassius recevant la pierre tombale, vous l'avez compris, est celui d'un anorexique. Cette anormalité, évocation analogue de la mort, devient alors l'image même de celle-ci, si bien qu'elle ne soit pas réalisée sur scène. À ce sujet, Eleni Papalexiou s'exprime de la manière suivante. Je cite « La pierre tombale posée sur son corps semble être un signe annonciateur de sa mort, mais en fait, en refusant son rôle d'actrice, celle-ci incarne la vraie image de la mort. D'ailleurs, la mort qui est prescrite dans le texte de Shakespeare ne se matérialise jamais sur une scène, alors que l'actrice anorexique de Castellucci recèle bien concrètement dans son corps une réalité tangible qu'elle laisse percevoir au spectateur. » Fin de citation. Roméo Castellucci décide toutefois de garder ce qu'il considère comme l'élément principal de la pièce, à savoir le monologue de Brutus. Dans le premier acte, Brutus et Cassius sont joués par des hommes, alors que ces personnages sont ensuite interprétés par deux jeunes femmes ici, donc comme vous voyez, anorexiques. Leurs corps sont légers, sans poids sur scène, symbolisant en fait l'anorexie du texte lui-même. La maigreur cadavérique de ces corps anorexiques entre donc en parfaite adéquation avec le caractère liminaire et la quasi-absence de texte sur scène. À ce sujet, Castellucci ajoute également que le problème de Brutus est devenu le vide. Brutus a tué l'image même du monde et maintenant qu'il a dépassé les deux questions d'Hamlet « to be or not to be », Il ne lui reste que le vide. Se vider, voici alors l'anorexie. » Fin de citation. Aux antipodes de ces corps, on découvre dans Orestie la fin du pouvoir dans les corps obèses de Clytemnestre et d'Électre. Parler d'adaptation ici de l'œuvre d'Eschyle serait une erreur, puisque Romeo Castellucci a toujours considéré cette trilogie dramatique comme premier canevas sur et autour duquel il lui est possible de broder, de réinventer et même de créer un texte surréaliste, fortement empreint de l'univers de Lewis Carroll, où le rêve d'Alice bascule progressivement dans le cauchemar des Atrides. Le corps obèse choisi pour Clytemnestre permet une certaine réinvention du drame, selon Romeo Castellucci, où l'ordre matriarcal s'établit contre l'ordre patriarcal. Romeo Castellucci évoque la créature abyssale de Melvin qui, avec les remous de chacune de ses immersions, triomphe de toute résistance humaine et dévore ses victimes inexorablement. L'obésité des corps s'exprime dramaturgiquement sur scène, en symbolisant l'importance des rôles qu'ont ces personnages féminins dans la pièce. Le statut de la femme pèse ici sur celui de l'homme, elle domine et leurs paroles, gémissements, cris et souffles prévalent sur le mutisme des hommes de la pièce. Vous l'aurez compris donc, au contraire de ces corps obèses féminins, reflets de leur pouvoir, ceux des hommes ne s'imposent pas, restent discrets, voire muets, ou alors deviennent risibles. Ainsi, les corps accueillant les personnages d'Oreste et Pylade sont chétifs, pâles et nus. Sur leur sexe est posée une coquille rembourrée sur laquelle un pénis anormalement proéminent apparaît, symbole de leur fausse virilité. Un chapeau conique est posé sur la tête de Pylade, tandis qu'Oreste, lui, porte un nez sphérique blanc. Leur maquillage, leurs costumes et leurs attitudes nous laissent l'image de deux clowns blancs évoluant péniblement dans cette tragédie. De plus, Électre applique un bras mécanique à Oreste, contrôlant ses muscles et lui imposant ses gestes, si bien qu'il n'est plus maître de ses actes. C'est justement par ce procédé qu'il parviendra, malgré lui, à commettre le matricide annoncé. Électre se montre puissante et déterminée, alors qu'Oreste, amaigri, hésite à commettre le matricide. Pour qu'il puisse frapper, il lui faut actionner un bras mécanique armé d'un couteau à son extrémité. Ce n'est pas de son plein gré qu'il va tuer sa mère, il y est poussé par une machination imaginée par sa sœur. La chétivité des corps souligne la privation ici de la parole imposée à ces deux personnages et leur impossibilité d'agir seuls. Obéissant au même rapport, Romeo Castellucci choisit de mettre en scène un homme manchot qui va incarner Apollon, donc normalement dieu des arts et de la perfection, normalement reconnu pour sa grande beauté, comme vous allez pouvoir le voir. Outre ses fonctions de devin, Apollon purifie les homicides, comme le montre le mythe d'Oreste. Cependant, dans l'Orestie, les Érinies ne cèdent pas et Apollon ne parvient pas à intercéder. C'est pourquoi il conseille à Oreste de demander l'aide d'Athéna en se rendant à son temple. Elle constitue un tribunal qui jugera Oreste et lui offre sa voix pour le libérer. Là encore, ce sont les figures féminines qui assoient leur pouvoir. De nouveau, Castellucci crée une association entre mythe de départ et les corps l'incarnant. Aussi, Athéna est interprétée par une femme obèse alors qu'Apollon est manchot. Ainsi dépourvu de bras, il n'a pas ici les moyens d'agir. De plus, il entre et sort de scène, non par ses propres moyens, mais en étant poussé sur un socle à roulettes. Ce corps devient alors symbole de manque. Par ailleurs, de son discours initial déclarant la loi patriarcale, je cite « Ce n'est pas la mère qui engendre celui qu'on nomme son fils, elle n'est que la nourrice du germe récent, c'est celui qui agit qui engendre, la mère reçoit ce germe et elle le conserve s'il plaît aux dieux, voici la preuve de mes paroles, on peut être père sans qu'il y ait de mère, la fille de Zeus Olympien m'en est ici témoin. » Elle n'a point été nourrie dans les ténèbres de la matrice. Donc de ce discours prononcé, il n'en reste rien. Et Athéna a le dernier mot finalement. Privé de son discours, il l'est aussi de l'usage donc de ses membres, et les mots de la langue d'Apollon sont estropiés, tout comme l'est son corps choisi pour l'habiter. L'acteur choisi pour interpréter Agamemnon est atteint de trisomie 21. Et Égiste, cousin d'Agamemnon et amant de Clytemnestre, et noir, vêtu d'un pantalon érotique en cuir, propre à la pratique du sadomasochisme, et fendu au niveau des fesses, les laissant apparentes. Le discours du roi Agamemnon est remplacé par une chanson interprétée par l'acteur trisomique tournoyant sur lui-même et riant de ses propres actions. Égiste, lui, violentera le lapin coryphée en le poussant au sol, en le pendant par les oreilles avec des crochets de boucher, en l'électrocutant, en le fouettant ou encore en le frappant avec un énorme godemiché noir. Par le traitement de ses corps et leur mise en scène, Romeo Castellucci insère à sa représentation une forme d'ironie grave dans la violence représentée sur scène. L'ironie grave telle que nous l'employons ici se doit d'être comprise dans son sens étymologique, c'est-à-dire à la fois l'ironia, appliquée selon une dissimulatio et une inversio, comme une raillerie dissimulée inversée pour permettre d'interroger le spectateur en feignant l'ignorance, mais aussi par son autre partie, gravis, qui réattribue à la forme naïve des questionnements ironiques posés un caractère à la fois sérieux et méritoire, mais aussi un impact lourd et assuré. Si on met au second plan la poésie de l'Orestie, si on élimine le splendide édifice exposé à la lumière du soleil, ce qui reste visible et terriblement fondamental, c'est la violence. Le langage du poète devient jargon de chasse, enrichi de tactiques, de stratagèmes pour les pièges, menaces, d'embuscades lâches, mais il n'existe pas de poésie capable de supporter une telle violence, capable de lui faire concurrence, capable de l'égaliser. Au théâtre aujourd'hui, ceci arrive, nous dit encore Romeo Castellucci. Il ne s'agit plus ici donc d'une volonté de représenter la force tragique de l'Orestie, mais plutôt de présenter les conséquences violentes, macabres et brutales qu'elle engendre, à se rapprocher du sens de cette œuvre et à créer une synergie totale chez et avec le spectateur. L'ironie grave et l'humeur de potence créée par Castellucci sont aussi source libératrice de tension, ce qui conjecture avec une certaine prise de distance par rapport à ce que nous observons. Nous, en tant que spectateurs, avec, entre autres, le décalage des situations qui nous sont données à voir. Donc, par exemple, dans Jules César, au moment de l'endoscopie, nous sommes amenés à voir le sexe d'une femme dans la gorge d'un homme, puisque les cordes vocales évoquent immanquablement les organes génitaux externes de la femme. Dans Orestie, le rire est produit, donc, par exemple, dans le choix des acteurs et leurs agissements, le chant d'Agamemnon, le godemiché pour objet de torture, le costume du tortionnaire, la voix transformée anormalement aiguë d'Égiste lors de son discours suite au meurtre d'Agamemnon. Apparaît alors au spectateur une image riche de sens, selon Castellucci, car elle contient un commentaire ironique sur la puissance rhétorique. Cette puissance rhétorique remet en branle l'apparente virilité des hommes politiques et de leurs discours. Cette ironie grave permet de créer une nouvelle forme de catharsis qui dépasse la simple purgation des passions. En perturbant nos propres schémas représentatifs, elle participe au re-questionnement du monde et de notre place en son sein ou en marge de celui-ci. Pour conclure enfin, pour Castellucci, la création passe d'abord par une destruction du texte, consumé, absorbé totalement par osmose pour revenir sur scène vivant, puisque c'est en brisant le livre qu'on peut en retrouver le souffle vital. De ce fait, la scène permet à la langue de se délier, au langage de se libérer et devient le lieu de surgissement de l'écriture. Par ailleurs, le corps, ce pur communicable qu'est le corps, ne remplace pas le texte mais l'incarne et devient fable de l'œil. Si bien que, selon Castellucci, je cite, « le temps de la fable est un temps à sa disposition, sans direction, parce qu'il flotte autour du corps, en vibrant comme son après immédiat. Son temps envoûté est la carapace intangible de la figure, de telle sorte que sa communication armée vient d'ailleurs, d'un corps muet sans existence. » Les corps redeviennent alors signes parce qu'ils prennent sens en communiquant le contenu du texte sans forcément le représenter. Images signifiantes et signifiées, les acteurs deviennent les didascalies vivantes d'une légende inscrite en marge d'une carte pleine de symboles. La parole a le même destin qu'un corps, par conséquent, la présence, mais aussi la merveille de la chair. Vous voyez donc combien le livre est loin. Il est très loin, très très loin le livre, s'exclame Roméo Castellucci. Du corps, il n'en reste plus que ce pur communicable manipulé, cette ossature mécanique et désarticulée, cette matière organique animée en vue de produire des images et des sons et de découvrir un langage formel, conceptuel et théâtral, puisque selon Castellucci de nouveau, êtres humains et animaux portent littéralement ce qu'ils veulent dire avant même d'ouvrir leur bouche, de sorte que le corps soit un passage de sortie, une résolution de l'écriture tragique. Le texte d'origine est donc à la fois nié, puisqu'il y a un refus de renouer avec le théâtre traditionnel. Il est aussi défléchi, puisqu'il sera retransmis par des voix transformées, enregistrées, fatiguées, criantes ou silencieuses, soit présent sur scène par des inscriptions ou des projections, ou encore totalement absent, mais traduit autrement par le corps. Il est enfin réfuté, puisque Castellucci se refuse d'être dans la communication. Du texte initial, il n'en reste donc que l'essence. Et si nous nous osons à une métaphore avec le principe de l'huile essentielle, Roméo Castellucci prend le texte comme le végétal premier servant à la créer. Il l'épluche, la presse, la chauffe, la laisse refroidir, pour y revenir ensuite et n'en extraire que l'essence. Il produit ainsi un dérivé concentré de la matière première, le dilue et l'applique sur les corps en scène et dans la salle. Le texte s'exprime ainsi corporellement à travers la perception et le ressenti, tout comme l'huile se libérerait sur et dans les corps, sans effort, et délivrerait ses bienfaits, quoique. Il s'agit en somme de déterrer non pas seulement le livre cadavre, mais d'en délivrer, d'en déraciner la moelle, c'est-à-dire, et pour reprendre le propos de François Rabé dans le prologue de son deuxième roman Gargantua, il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui est déduit, puis, par une curieuse leçon, méditation fréquente, rompre l'os et, le et en sucer la substantifique moelle. Pardon. Fin de citation. De l'épuisement et de l'évidement théâtral initialement annoncé, en ressortent certes les ruines du langage, mais desquelles les images se construisent et ressurgissent. Aussi, si Roméo Castellucci choisit les comédiens pour leur corps stigmatisé, il ne les réduit pas à cette pathologie, mais les transforme en matériaux textuels et en matière dramatique pour en faire renaître une nouvelle langue de la scène. Je vous remercie de votre attention.